Alors un jour, j'avais invité Alessandra Sublet qui présentait le soir même un divertissement sur TF1. Il n'y avait pas eu de femme animatrice en prime time ce jour-là depuis 7 mois sur la première chaîne. Écoutez ce qu'elle m'en disait.
Où sont les femmes? Parce que en l'occurrence, pour tenir un prime, je me rappelle très bien de Bercy que j'ai pu faire, ou même de l'Euro 2016 avec 15 000 personnes devant moi, c'est un vrai exercice. Moi, je crois sincèrement que pour les primes, c'est-à-dire ces gros primes-là, je n'ai pas vu beaucoup de nanas autour de moi me dire « Oh là là, j'adorerais le faire !»
Plus de femmes dans les médias, la bataille n'est pas nouvelle et plus complexe qu'elle n'en a l'air. La quête relève du quantitatif d'abord. Il faut compter. Compter les femmes et compter le temps de parole qu'on leur accorde. Mais il faudrait aussi, l'affaire n'est pas seulement numéraire, se demander quelles femmes sont médiatisées, dans quelle posture et sur quel sujet. Enfin, une fois réglé, et on en est loin, la question de la représentativité, il s'agirait de se confronter au réel, à la société française de 2021, à la présence effective des femmes dans les différents secteurs d'activité, à leur propension à prendre la parole, à se mettre en avant, à se sentir légitime. La question est donc de savoir, et la question est très profonde et très belle, si les médias doivent refléter la France telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Et j'ai le plaisir de recevoir Céline Calvez. Bonjour.
Bonjour.
Madame la députée, vous êtes députée LREM des Hauts-de-Seine et membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. C'est intéressant parce que à la fois vous avez travaillé sur un rapport que vous avez remis à la ministre de la Culture et de la Communication sur ce sujet, mais pas seulement. Vous avez récemment publié une tribune dans le JDT. Tout ça vous met assez en colère et vous avez décidé de taper du poing sur la table. On va en parler ensemble. Juste avant qu'on y vienne, pour une fois, que j'ai une voix politique dans l'instant M, c'est pas tellement la vocation de cette émission. Je me suis proposé de vous faire réagir à l'actualité politico-médiatique de la semaine et vous allez voir qu'elle est assez fournie. Je vous propose de réentendre Marine Le Pen au micro de ma consoeur Sonia Mabrouk sur Europe 1. C'était la semaine dernière.
Je suis, vous le savez, pour la privatisation du secteur public de l'audiovisuel parce que là encore, le pouvoir d'achat va pouvoir augmenter pour les Français puisqu'ils n'auront plus à payer la redevance télévision, mais surtout parce qu'on est une grande démocratie et l'on n'a pas besoin, à part un audiovisuel pour l'outre-mer et un audiovisuel pour que la voix de la France dans le monde continue à porter, on n'a pas besoin d'avoir un service public de l'audiovisuel aussi important.
Évidemment, ça nous intéressait d'avoir une voix de la majorité sur ce sujet, car c'est un serpent de mer et qu'à chaque élection présidentielle, souvenez-vous des premières propositions de François Fillon à la précédente campagne, c'est un serpent de mer et quelque chose qui revient systématiquement. Faut-il privatiser tout ou partie du service de l'audiovisuel public?
Bien, en fait, forcément, ça fait réagir. Mmh. Et moi, je vais prendre le contre-pied total. Déjà, pour rappeler ce qu'est la redevance, souvent, on oublie ce qu'elle finance. On a l'impression que c'est que la télé. Déjà, les gens ne savent pas si c'est TF1 ou France 2. Il y a une grande confusion, on le sait. En fait, France Inter, la radio publique, les chaînes publiques de télévision sont financées. Mais en fait, parfois, on entend certaines personnes nous dire « Oui, mais moi, j'ai pas la télé, donc je vois pas pourquoi. Mmh. » Je dis « Mais t'écoutes la radio, t'écoutes quoi ?» On me dit France Inter. Je dis en fait, c'est la redevance. Donc déjà, il va falloir redéfinir ce qu'est la contribution à l'audiovisuel public et ce qu'est l'audiovisuel public. Aujourd'hui, et d'ailleurs, votre antenne en est un exemple, il y a des podcasts qui sont écoutés. On a l'impression que certains oublient que ça est produit parce qu'il y a eu la contribution à l'audiovisuel public. Donc il faut pouvoir redéfinir non pas ce qu'est l'audiovisuel public, redéfinir son importance. À l'heure de la lutte contre la désinformation, on ne peut pas se départir d'un audiovisuel public fort. Et donc l'idée de privatiser est complètement sans doute populiste et c'est un pouvoir d'achat. Moi je veux qu'on reprenne en compte ce qu'est l'audiovisuel public. Là je vous ai parlé de l'information, je vous ai parlé de podcast, mais l'audiovisuel public aussi c'est ce qu'il y a de la création de films, la création de programmes. Et donc ça, on ne peut pas s'en défaire.
Mmh. Au moins, c'est clair, net et précis. Autre actualité, ça c'est ce soir sur BFM TV. Et ça tape.
Éric Zemmour.
La vie et la mort de la France, c'est une obsession. Et oui, je me sens assiégé comme tous les Français.
Jean-Luc Mélenchon.
En France, il y a un processus de zemmourisation de toute la droite et même du macronisme.
Social, économie, république.
Immigration.
L'un est candidat, l'autre pas, vous le savez, Céline Calvez. BFM les fait débattre. Ce soir, quid de la décision du CSA d'obliger les chaînes à comptabiliser le temps de parole d'un homme qui n'est pas encore candidat? Ça a entraîné sa sortie de l'émission de CNews Face à l'info tous les soirs aux alentours de 19h. Mais hier, on a appris également que Paris Première, filiale du groupe M6, prenait la même décision. Stop, on arrête le face-à-face Zemmour-Nolo qui était installé depuis des mois, des lustres. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je trouve que ça soulève la façon dont on décompte depuis quelques années le temps de parole ou le temps d'antenne. Aujourd'hui, c'est fondé sur votre appartenance à l'exécutif ou à des groupes parlementaires ou des mouvements politiques. Or, quand vous avez un candidat en puissance qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, on peut avoir un vrai décalage. Moi, je pense que la décision du CSA, elle me paraît légitime. Et d'ailleurs, puisqu'elle est suivie des faits, ça veut dire qu'elle est vraiment écoutée. En fait, l'idée de décompter le temps de parole, c'est pas de censurer la parole d'Éric Zemmour, mais c'est de dire que les médias qui le mettraient à l'antenne devraient aussi assurer auprès des autres candidats, des autres voix politiques, celles qui contribuent au débat national, la même exposition. Donc si elles décident de le déprogrammer, c'est parce qu'elles ne veulent sans doute pas reprogrammer d'autres voix politiques.
Mais on a entendu des voix de la majorité, des voix de la République En Marche, dire « mais pourquoi on ne comptabilise pas le temps de parole des éditorialistes ?» Ce qui pose d'énormes questions, c'est-à-dire comment on les catégorise, dans quelles cases on les met, au nom de quoi, comment on les étiquette?
Je pense qu'il faut, et ça, j'en viens à mon propos initial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les comptabilise par rapport à des appartenances politiques, mais en fait, l'influence des éditorialistes est bien plus grande et contribue. Alors, bien sûr, la difficulté, c'est si je suis éditorialiste, je ne suis pas personnel politique, donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Mais on voit très bien le pouvoir d'influence des éditorialistes. Aujourd'hui, vous avez des plateaux qui sont constitués uniquement d'éditorialistes.
Absolument.
Et qui vont influencer l'agenda politique. Et donc, c'est très difficile à faire. En fait, c'est une question dont on n'a pas encore la réponse, mais on ne peut pas se contenter aujourd'hui de se dire que le calcul du temps d'antenne ou du temps de parole devrait être uniquement fondé
donc
sur l'appartenance.
Donc vous êtes pour la réforme de ce calcul?
Oui, je pense qu'il faut le faire. On en voit bien les dérives, donc il va falloir s'y attaquer profondément.
Dernière question, suite à la décision du CSA, et qui a été suivie des faits, vous l'avez fait remarquer, le nombre de vues, le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube d'Éric Zemmour s'est littéralement envolé.
Bonsoir à tous. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire australienne. Non, ce n'est pas une affaire de surf ou de kangourou, mais une affaire de sous-marin. Les sous-marins que nous devions vendre à l'Australie pour un contrat mirifique.
Et voilà cette campagne, Céline Calvez, en 2021, où la télé se débat avec des carcans réglementaires imposés par le CSA, qui permettent aussi à d'aucuns d'hurler à la censure et à l'entrave et évidemment la confiscation de la liberté d'expression. Et pendant ce temps-là, une libre et totalement libre parole sur Internet.
Alors, effectivement, on peut se dire que les programmations linéaires surveillées par le CSA ont une réglementation qui contraignent davantage que les réseaux sociaux. Mais elles ont une forte influence, on doit le garder encore, ces émissions. Donc, ce que l'on peut contrôler, contrôlons-le. Alors, effectivement, on pourrait dire qu'il y a un effet d'évitement. Il faut remarquer quand même que le CSA, qui sera la future ARCOM à partir de janvier prochain, est doté de plus en plus de contrôles, d'obligation de moyens que les plateformes doivent respecter. Je fais référence
c'est-à-dire
à la
que le CSA étend ses pouvoirs.
Oui, de plus en plus.
De plus en plus au numérique.
Voilà, sur un contrôle d'obligation de moyens, c'est en train d'être mis en place contre la haine sur Internet, sur la lutte contre la désinformation. Il faut aller encore plus loin et l'ARCOM va être dotée de moyens supplémentaires cette année pour pouvoir justement répondre à l'étoffement des missions qui ont été confiées au CSA, qui n'est plus que sur l'audiovisuel, mais qui est au-delà.
À l'ancienne. Voilà, un point sur l'actualité. Et on va parler de ce sujet qui vous tient tant à cœur, la place des femmes dans les médias.
L'instant M sur France Inter.
Je vous fais réécouter Céline Calvez. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche et que la dernière tribune que vous avez signée dans le journal du dimanche nous a fait réagir. Je vous fais écouter Ruth Elkrief. Vous la connaissez évidemment. Aujourd'hui, elle est sur l'antenne d'LCI. Elle a été longtemps sur l'antenne de BFM. Elle était à ce micro il y a quelques jours, juste avant vous.
Bon, c'était un des gros événements de BFM TV à l'époque, avec la vision d'Alain Veil et de la direction de l'époque. Il y avait Jean-Jacques Bourdin aussi, qui co-animait avec Olivier Mazerolle. Et j'ai appris la tenue de ce débat la veille au soir. Et j'ai dit, s'il n'y a pas de femme pendant ce débat, je pars.
Parce
je quitte la chaîne,
prévu au programme
parce que je n'étais pas prévue. Et ben voilà, il y a eu premier bras de fer. Ça a commencé comme ça. Et c'est de toute façon toujours comme ça.
On était en 2007 à l'époque et BFM créait la surprise en organisant un débat à Ségolène Royal, François Bayrou. Et voilà, une femme intervieweuse politique, journaliste politique qui avait dû taper du poing sur la table pour en être. Vous, vous avez commencé, Céline Calvez, dans votre tribune, par compter les femmes au micro à la radio. Et alors?
Alors, on a compté, en fait, ce qui était dans les programmations radio, d'ailleurs. Mmh. Et en fait, on a eu l'impression tout de suite que, ben, il y avait que des journalistes hommes sur certaines stations. Donc, on attendait à ce qu'il y ait que des invités femmes, du coup, pour rééquilibrer. Bon, ce n'est pas le cas. Et pour nous, il est important de compter, vous l'avez dit en introduction, passer par le quantitatif, c'est une chose. Après, on peut aller sur l'appréciation de différents critères. Mais compter pour que les femmes comptent, c'est une expression utilisée par beaucoup. Certains vont dire oui, en fait, on est dans le quantitatif, donc on oublie la qualité. Non, c'est un préalable. C'est un préalable pour la prise de conscience. La prise de conscience. Et à partir du moment où vous avez appris à compter, en fait, ça devient un réflexe. Et ça vous saute aux yeux. Quand il y a de l'absence de femmes. On n'est pas sur une minorité, on est sur une majorité. Il y a 52% de femmes dans ce pays, a priori sur cette planète. Et donc, quand la moitié de la population auquel vous vous adressez est absente, ça pose quand même pas mal de questions auprès des spectateurs.
Elle n'est pas absente. Elle est sous-représentée.
Elle est alors sous-représentée, parfois absente. On venait de parler d'un sujet BFM de 2007 où elle aurait pu complètement être absente. Ça saute aux yeux. Alors la sous-représentation, on pourrait se dire, à partir du moment où on n'a pas 52% de femmes qui s'expriment, ça veut dire que c'est sous-représenté. Là, on en est très très loin. C'est-à-dire que il suffit de regarder quels sont les invités des matinales, hein, quelles qu'elles soient. On est quand même très 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 loin. Alors, ça soulève plein de questions, mais rien que de compter, on prend conscience. L'idée, c'est pas forcément de dire on compte et on met des quotas. Déjà, on compte pour les prises de conscience. Et quand les prises de conscience, elles ne sont pas assez fortes, il faut aller un petit peu plus loin. Il y a des mécanismes incitatifs, il peut y avoir ensuite...
Alors, lesquels?
Incitatif, par exemple, c'est de pouvoir, et j'en viens dans ma tribune, à dire que les pouvoirs publics peuvent financer davantage des médias qui mettent en place des chartes, qui ont des bonnes pratiques de mise en relation de leurs journalistes avec des expertes. Et ça, c'est important de le faire. Et je pense que c'est aux pouvoirs publics de le faire, parce que ça ne peut pas reposer que sur les médias. Ça ne peut pas reposer non plus que sur les femmes et les hommes. Les pouvoirs publics doivent faire tout ce qui peut être en leur pouvoir pour accompagner des progrès sociétaux. Celui-ci en est un majeur.
Les pouvoirs publics ne financent qu'une toute petite partie des médias en France. Quid des médias privés, quid des médias audiovisuels privés, quid de la presse qui n'est pas régulée par le CSA. Enfin, je veux dire, l'emprise des pouvoirs publics est quand même très 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 limitée.
Très limité, mais finalement pas tant que ça. Si on prend effectivement les aides à la presse écrite, donc on pourrait se dire, bon, les aides à la presse écrite, c'est une part, ok. L'audiovisuel public, c'en est une autre, et quid par exemple des...
Vous êtes pour indexer les aides à la presse écrite?
En fait déjà on a renforcé dans le décret de 2012, on l'a changé suite à mon rapport justement, le fait que l'on veille au respect de la parité dans les organisations, donc ça c'est une chose. Après il faut concrètement ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on peut modifier un décret, mais on peut aussi aller dans une maille un peu plus fine sur les aides à la presse. L'idée c'est de bonifier les aides à la presse des entreprises vertueuses. Après, si on est dans une enveloppe budgétaire globale, si on bonifie certains, peut-être qu'il va falloir rendre un petit peu moins fort l'aide à d'autres, et puis aller de plus en plus.
C'est-à-dire sanctionner?
Pourquoi pas? Enfin, moi, je dis que si on est sur un principe de dégâts conditionnalité, puisque c'est bien ça sur lequel on doit aller, pour moi, c'est de dire que le respect de critères de parité pourrait conditionner la délivrance d'aide d'une partie ou de toute
partie. De parité au sein de la rédaction, au sein de la direction, de est-ce que vous vous proposez également de juger d'une ligne éditoriale, de juger des contenus?
Alors on en a beaucoup parlé et en fait il y a un accord assez sur au sein de la rédaction, parce qu'on sait que la rédaction c'est l'endroit de pouvoir clé, et donc dans les postes à responsabilité ce serait bien de veiller à ce que des femmes aussi soient représentées. Ça c'est quelque chose qui est plus accepté. La ligne éditoriale, c'est autre chose.
Ah, c'est autre
Allons-y
chose,
progressivement
oui.
aussi. Moi, je veux pas non plus qu'on soit dans une démarche qui braque. De pouvoir regarder.
Mais vous imaginez les pouvoirs publics avoir un droit de regard sur une ligne éditoriale avec des critères de représentation des femmes, de une, de photos, de légendes, de sujets, de personnes interviewées et indexer des aides à la presse?
Moi, je pense que déjà, ce que peuvent faire les pouvoirs publics, c'est d'obliger les entreprises de presse à compter. Déjà, c'est une obligation de moyens, c'est même pas une obligation de résultat. Je pense que déjà passer par une obligation de moyens et qui peut être aidée par l'État en mettant en place, par exemple, des outils qui peuvent être mutualisés, parce que compter, ça peut être rébarbatif, hein, on le sait. Par exemple, l'audiovisuel doit le faire pour le CSA depuis un certain nombre d'années. Aidons-nous des outils d'analyse, par exemple informatique, qui nous permettent de visualiser. L'INA, l'Institut National d'Audiovisuel, a développé un formidable outil qui permet de repérer quand c'est une femme ou un homme qui parle.
Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on voit bien que la visibilité, la présence sur des plateaux télé et radio ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on voit bien que les femmes sont visibles, sont présentes, mais parlent beaucoup moins grâce à cet outil de l'INA.
Ah oui, et c'est le INA Speech Segmenter le révèle. Et non pas sur quelques programmes qui auraient été sélectionnés, mais sur des milliers d'heures, chose que à l'échelle humaine, on serait incapable de faire. Et donc ça, cet outil développé par l'INA, et donc par un financement public, il faut aussi pouvoir le mettre à profit sur une utilisation plus large, plus constante. Aujourd'hui, le CSA fait un baromètre annuel avec des remontées sur la répartition et la place des expertes dans les émissions audiovisuelles. Eh bien, on devrait le faire beaucoup plus souvent, parce que là où, quand le Premier ministre, en avril 2020, me confie la mission sur la place des femmes dans les médias en période de crise, c'est notamment pour se dire qu'on a des effets dont on doit mesurer tout de suite la portée, pas dans un an. L'idée, c'est pas de se retrouver dans un an en disant « Ah oui, avec eux, finalement, 9% d'expertes invitées dans les journaux d'une chaîne publique au mois de mars 2020 ». Non, non, il faut s'en apercevoir tout de suite et il faut pouvoir réagir tout de suite. Ça permet de réagir, ça ne veut pas dire qu'on a les solutions tout de suite, parce que comme vous le disiez en introduction, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de critères. Donc les pouvoirs publics doivent aider, les médias doivent s'emparer, et puis chaque femme, chaque homme aussi a des questions à se poser par rapport à sa pratique médiatique, qu'il soit auditeur ou spectateur, et puis quand il prend la parole aussi, il peut se poser des questions sur saisir l'occasion, accepter des règles ou les changer.
Merci beaucoup, Céline Calvez. Je pense que le message est parfaitement passé auprès de chaque personne qui nous écoute et aussi auprès de chaque journaliste qui compose cette chaîne. Merci d'être venu au micro de l'Instant M pour porter ce combat qui vous tient tant à cœur. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche dans les Hauts-de-Seine. C'est la fin de l'émission. Bonjour, Ali Rebeyi.
Bonjour, Sonia de Villers.
Alors,
une question très personnelle. Est-ce que vous avez déjà pris du CBD?
Non, j'ai jamais essayé.
Eh ben, écoutez, c'est
Est-ce
peut-être l'occasion.
Est-ce qu'il y a des femmes dans votre émission?
Oui, il y a des femmes.
Bien.
Il y a Dominique Nora, grand reporter à l'Obs, et donc on va s'intéresser au CBD. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le cannabidiol, ce composé relaxant du chanvre qui fait de plus en plus d'adeptes dans toutes les couches de la société. Appelez-nous au 01 45 24 7000 voilà. Ou bien laissez-nous une note vocale sur l'appli France Inter.
Et on peut saluer Dominique Nora parce qu'il n'y a pas beaucoup de canards. On peut citer L'Obs, dirigé par une femme et ensuite par une autre femme.
Exactement.
Parce que dans la presse écrite, des femmes à la tête des journaux, il y en a très peu.
Exactement.
Salut Ali et bonne émission.
Merci.